Les éditions Luxenox présentent Le Tournoi des Reines, écrit par Jordan H. Bartlett. Chapitre 1. Le premier voyage.
Ils sont trop nombreux, cria Iliana, ses cheveux longs noirs flottant derrière elle comme un étendard. Les yeux vifs de Connor étudièrent le champ de bataille et il jura. D'une main, il balaya les cheveux de son visage, tandis que le vent lui apportait l'odeur âcre des combats autour de lui. Leurs regards se croisèrent un court instant. L'adrénaline coulant encore dans ses veines, elle saisit sa taille et l'attira vers elle pour lui offrir un baiser profond et passionné. Lorsqu'elle relâcha son étreinte, il eut besoin d'un moment pour reprendre son souffle. Les yeux fous, le sourire éclatant, elle dégaina son épée.
« Mais avec toi ici, nous avons peut-être une chance !»
Il se redressa. Ses mots brûlaient dans son esprit et le fantôme de ses lèvres s'attardait sur les siennes. À son tour, il dégaina son épée et la brandit bien haut.
« Finissons-en » hurla-t-il.
Le cri de guerre d'Iliana résonna à ses oreilles. Ils bondirent en avant comme un seul homme. Une lumière traversa brusquement son champ de vision, l'aveuglant. Il recula en titubant et son épée tomba à ses pieds. Iliana le dévisagea, confuse. La lueur scintilla à nouveau et le monde autour de lui commença à s'estomper. Il grogna en se tournant. Sa lourde armure de cuir s'était transformée en duvet de plumes. Les premiers rayons de soleil se faufilèrent à travers la fente des lourds rideaux de velours. Il glissait le long du sol de pierre froide, grimpait le long d'un montant de lit en acajou et aveuglait les yeux du prince. Les sourcils de ce dernier se plissèrent tandis qu'il luttait pour rester aux côtés d'Iliana un peu plus longtemps. À contre-cœur, Connor finit par ouvrir ses yeux bleus. Une fois, deux fois, il se redressa.
« C'est dimanche, » se dit-il. « Enfin, toute bonne aventure commence un dimanche. »
En s'étirant, il repoussa les couvertures et son regard parcourut la pièce. Son esprit était déjà tourné vers les préparatifs. Il aurait besoin de vêtements légers, rien qui puisse l'alourdir. Et de sa boussole. Une liste d'objets traversa son esprit et il commença à s'affairer dans la pièce pour les récupérer. Bien qu'il fasse de son mieux pour préparer ses bagages en silence, son excitation provoqua des claquements de tiroirs et des bruits de pas lourds. Il examina ses différentes paires de bottes en cuir. Les boucles s'entrechoquèrent et le matériau se froissa doucement tandis qu'il passait au crible les noirs, les bruns et les foncés. Il saisit une paire haute, fronça les sourcils, puis l'échangea contre des bottes plus courtes dont le cuir était abîmé. Il ne pouvait pas risquer d'avoir des ampoules aujourd'hui, et les grandes paires lui frottaient les chevilles. Cela fait, il alla chercher le sac à dos qui se trouvait sous son bureau. La toile était usée sur un coin. Une lanière de cuir avait besoin d'être réparée. Il avait une légère odeur de chien mouillé. Un prince n'aurait jamais dû posséder un tel objet. Il l'avait échangé à l'un des garçons de service, car tous ses sacs étaient beaucoup trop élégants pour l'expédition dans laquelle il s'apprêtait à se lancer. Il resserra l'une des sangles et son esprit flotta jusqu'à la poignée en cuir de l'épée de son rêve. Son épée. L'épée d'un chevalier. Il s'arrêta et soupira lorsque l'idée le frappa. Être chevalier. C'était son plus grand rêve, mais c'était ridicule. Sa mère lui avait expliqué longtemps auparavant que seules les femmes pouvaient devenir gardes, et parmi elles, seules certaines devenaient chevalières. Les chevalières de la couronne avaient le pouvoir de prendre la vie d'autrui, et seules celles qui avaient le don de créer la vie se voyaient confier le fardeau de l'éteindre. De plus, à 14 ans, Connor recherchait la gloire, pas le lourd poids des responsabilités. Se laissant aller à ses divagations, il s'imagina porter l'armure d'une chevalière. L'épée brandit sa cape, virevoltant derrière lui tandis que le vent soufflait dans ses cheveux bruns, commandant un bataillon de femmes fortes et belles, toutes secrètement amoureuses de lui, évidemment. Lui, le premier chevalier mâle. L'idée était bien plus excitante que celle de faire partie d'une longue lignée de princes, dont le seul devoir était d'apprendre à devenir des conseillers avisés. Chassant le fantasme de son esprit, il se reconcentra sur sa tâche. Il soupira. Il ne pouvait peut-être pas devenir chevalier, mais il pouvait toujours être explorateur. Il pouvait devenir un conquérant des renoms. Quand il était plus jeune, il s'amusait à faire semblant d'être un aventurier audacieux. Connor le conquérant. Un homme qui explorait courageusement les jardins d'herbes aromatiques et découvrait des pistes inexplorées dans les labyrinthes des haies taillées. Il gloussa à l'évocation de ce souvenir. Depuis, il ne s'était plus jamais senti tout à fait à l'aise en tant que Cornelius. Connor lui convenait mieux. C'était moins solennel et surtout, c'était un secret. Quelque chose de privé. Un bien rare pour un prince. Ses yeux balayèrent l'étagère à la recherche de son télescope. Ne l'y trouvant pas, il ouvrit le grand coffre qui se trouvait au bout de son lit. Les charnières du couvercle gémirent faiblement. Il fouilla à l'intérieur, le bout de ses doigts parcourant un bric-à-brac d'objets oubliés, jusqu'à ce qu'il trouve celui désiré, sa longue vue en laiton, qu'il rangea dans sa ceinture de la même façon qu'Amélia l'audacieuse sur la couverture de « Jusqu'au bout du monde ». Il était presque prêt. Grimaçant à l'idée de l'agitation qu'il avait certainement causée, Connor se rendit à son bureau près de la fenêtre, où le projet qui lui avait demandé plusieurs nuits de préparation reposait, terminé et étincelant. À la lumière du jour, la coque brillait d'un rouge chaud et riche. C'était un bateau en bois et son billet pour l'aventure. La coque mesurait environ la moitié de la longueur de son avant-bras et il était surmonté d'une voile en toile. Il saisit délicatement l'objet de l'endroit où il l'avait mis à sécher et examina son travail. Pas la moindre écharde en vue. Ces dernières avaient toujours eu tendance à préférer finir dans ses pouces. Connor ouvrit délicatement un petit compartiment caché au centre du pont du bateau qui révéla un renforcement rectangulaire. Puis, replaçant le bateau sur le bureau, il ouvrit le tiroir du haut, en retirant la lettre qu'il avait écrite la veille pendant que la peinture séchait et l'enroula en un tube serré. Il fit glisser sa chevalière de son auriculaire et la tendit à la lumière du soleil matinal. En la faisant basculer entre ses doigts, il admira la lumière qui dansait sur le griffon gravé. L'animal se pavanait, les ailes et les serres déployées comme pour saisir les nuages au-dessus desquels il s'élevait. Il s'agissait d'un dessin réalisé à sa propre demande qui marquait sa première tentative de créer ses armoiries personnelles. Tous les jeunes de 14 ans devaient avoir leur propre blason, même les garçons. Il avait débattu de la créature à choisir pendant des jours. Sa mère était représentée par le lion, son père par l'aigle, mais il voulait quelque chose qui lui appartienne totalement. Il avait vu à quoi ces créatures ressemblaient sur les peintures et les tapisseries du palais. Et deux fois en personne, lorsque les griffons avaient supervisé une audience importante dans la salle du trône. Ils étaient magnifiques, et Connor n'avait jamais été aussi émerveillé par une autre créature vivante de toute sa vie. Lorsqu'il deviendrait conseiller de la reine, il tenterait d'inspirer la même admiration. Ainsi, le prince avait choisi le griffon. Maître Estos, l'orfèvre de la cour, avait été ravi lorsque Connor lui avait décrit l'anneau désiré. L'homme, qui insistait pour que Connor l'appelle F, même si toute personne maîtrisant son art devait être appelée maître, aurait été bien moins ravi de découvrir à quoi son travail complexe était destiné. Connor secoua la tête pour chasser cette pensée de son esprit. Plaçant le parchemin à l'intérieur de l'anneau, il sortit une petite fiole en verre du tiroir de son bureau et y glissa son document. Il la ferma avec un bouchon de liège et prit le temps de sceller le couvercle avec de la cire fondue. Ceci fait, il plaça délicatement la fiole dans la coque, ferma l'ouverture et sourit. Il était fin prêt. Connor jeta un coup d'œil par la fenêtre. À l'horizon, le soleil brillait et projetait de minuscules arcs-en-ciel à travers les motifs cristallins qui entouraient ses grandes baies vitrées. La journée s'annonçait belle. Il enveloppa le bateau dans un mouchoir et le plaça soigneusement dans son sac à dos qu'il enfila. Après avoir jeté un dernier coup d'œil à sa chambre, il se dirigea vers la sortie. À l'affût du moindre bruit, la main posée sur le pommeau d'une épée imaginaire, Connor entr'ouvrit la porte d'un centimètre, puis complètement. Il regarda le couloir recouvert de moquettes. Toutes les aventures ne commençaient certainement pas de façon aussi ordinaire. Il fut presque déçu de ne pas être immédiatement intercepté. Ce n'est que lorsqu'il descendit l'escalier des domestiques qu'il dut faire face à son premier défi. Les odeurs alléchantes de la cuisine lui parvenaient de la cage d'escalier et caressaient son nez, lui mettant l'eau à la bouche. Il avait oublié d'emporter de la nourriture et, comme le lui avait appris l'époque où il était Connor le conquérant, il lui faudrait conserver ses forces pour le long voyage qui l'attendait. Sans bruit, il se faufila dans la cuisine et plongea derrière un grand tonneau de pommes de terre. La pièce était remplie d'odeurs et de bruit. Maîtresse Marmelade, non. Maîtresse Marmaduke, la cuisinière en chef, donnait des instructions à ses assistants qui couraient en tous sens. De la farine volait, des casseroles s'entrechoquaient et des cuillères étaient tendues à la demande pour une dégustation. Le prince pouvait voir le petit déjeuner s'organiser comme une danse parfaitement chorégraphiée. Il les observa pendant une minute avant que son estomac ne grogne en signe de protestation et ne l'oblige à passer à l'action. Dissimulant son visage, il se glissa nonchalamment le long d'un solide couloir jusqu'à ce qu'il y atteigne un assortiment de muffins et de scones posés sur des grilles de refroidissement. À l'aide d'un tour de passe-passe qu'il avait pratiqué avec son ami Hector, il glissa 3 muffins dans le sac à dos. Soucieux de ne pas attirer l'attention sur lui, il s'efforça à ralentir. Il prit même un moment pour lécher ses doigts des miettes et du jus de baie après avoir écrasé une framboise. Avec le même calme apparent, il ramassa son sac à dos et se dirigea vers la porte. Il avait presque atteint la liberté lorsque la voix forte et tonitruante de maîtresse Marmaduke fit taire le raffut de la cuisine.
« 1 minute !»
Sa voix était plus tranchante que le couteau qu'elle était en train d'utiliser pour couper une miche de pain encore fumante. Le prince se figea et essaya de prendre un air innocent malgré ses doigts tachés de framboises. La cuisinière en chef se tourna vers lui, main sur les hanches, les lèvres minces et les yeux étroits. La farine accrochée à ses cheveux la faisait paraître plus âgée, et le gris prématuré qui striait ses mèches, naturellement brunes, témoignait d'une vie qui n'avait pas été de tout repos. Maîtresse Marmaduke travaillait pour la famille royale depuis 8 ans, mais le stress et les responsabilités liées à la gestion des cuisines royales l'avaient fait vieillir 2 fois plus vite que la normale. Malgré cela, ses yeux noisettes conservaient une étincelle qui brillait davantage lorsqu'elle s'adressait au prince, comme c'était le cas aujourd'hui.
« Prince Cornelius, ce n'est pas un déjeuner convenable pour un garçon en pleine croissance !»
fit-elle remarquer en s'emparant d'un baluchon de lin rempli de ce qu'elle considérait être un déjeuner convenable sur l'un des rares comptoirs inutilisés. Décidément, c'est important d'être toujours préparé. Elle le gratifia d'un clin d'œil en plaçant le paquet de denrées appétissantes dans ses mains. Le prince sourit.
« Merci, maîtresse Marmelade !»
le remercia-t-il en utilisant le surnom qu'il lui avait donné lorsqu'il était enfant. La cuisinière gloussa avec tendresse.
« Où allez-vous si tôt? Devrais-je envoyer les équipes de recherche aujourd'hui ?»«
Cela ne s'est passé qu'une seule fois, maîtresse Marmelade. Et je n'en aurais pas eu besoin si on m'avait accordé 1 heure supplémentaire !»
s'indigna le prince. Il ôta son sac à dos et y déposa délicatement son panier repas. Maîtresse Marmaduke se racla la gorge de façon significative et lui tendit la main. Connor soupira et sortit les 2 muffins volés qu'il lui rendit. Elle les accepta, mais claqua des doigts, les mains toujours tendues. En souriant, Connor lui tendit la dernière pâtisserie à la framboise écrasée, puis s'inclina. Reconnaissant sa défaite, de bonne grâce, avant de se tourner vers la porte. Maîtresse Marmaduke crie de nouveau.
« Très bien, va! Mais faites attention à ne pas malmener mon pauvre petit cœur !»
Sur ce, elle ramassa son couteau et retourna vers sa planche à découper. Connor sourit et laissa la porte se refermer derrière lui. Il enfila son sac à dos, désormais beaucoup trop lourd. Les épaules en arrière, il se dirigea vers les jardins, déterminé. Il avait un bateau à faire naviguer. Une fois sur les pelouses du château, Connor sortit sa boussole. Il savait déjà où il allait, mais il s'était entraîné à utiliser l'outil avec maîtresse Boreas et pensait en comprendre le fonctionnement. L'aiguille tournait et oscillait. Connor la dirigea d'abord vers le soleil, puis vers le sol. Essayant de se souvenir de ses leçons, il fronça les sourcils devant le minuscule morceau de métal qui s'agitait. Il l'étudia encore quelques minutes avant de hocher la tête d'un air décidé et de se mettre en route vers l'ouest. Ou peut-être était-ce vers le nord? Non, compte tenu de l'angle du soleil, il s'agissait de l'est. Il se dirigea vers la tour sud et passa devant la roseraie.
Les fleurs multicolores remuaient paresseusement dans la légère brise matinale. Le bruit des abeilles voltant entre le parterre des fleurs s'élevait et retombait dans l'air. L'herbe s'accrocha aux semelles des bottes de Connor pendant qu'il marchait sur la vaste pelouse du palais.
Un homme moins courageux pourrait se perdre dans un terrain comme celui-ci, pensa-t-il. Mais je suis un conquérant intrépide.
Se souvenant de la façon dont Iliana l'avait regardé dans son rêve, il s'enhardit et commença à balancer légèrement les bras. Il lui fallut 20 minutes pour atteindre la forêt et les abords de la rivière vers laquelle sa boussole l'avait orienté. L'eau clapotait et ondulait autour des galets et des pierres vieillies qui pendaient le long de la rivière. Les arbres, moins bien entretenus qu'au château, pendaient bas et de façon irrégulière le long des berges, trempant parfois leurs feuilles dans l'eau fraîche, se regroupant si étroitement qu'il empêchait les autres de profiter de son tronçon particulier de la rive. Alors qu'il se dirigeait vers l'aval, Connor constata que la forêt devenait plus dense et que la rivière s'élargissait. Tous les bruits provenant du château étaient maintenant loin derrière lui et ses oreilles s'étaient remplies du bruit de l'eau agitée. De temps en temps, il entendait les gémissements de deux arbres qui s'entrechoquaient sous l'effet de la brise. Le bruit sec de la confrontation de leurs deux branches lui fit dresser les cheveux sur la nuque. Il était profondément conscient d'être un intrus dans ces contrées. Ses jeux avec les fils des seigneuresses et des gentilshommes ne l'avaient jamais mené aussi loin. Les seigneuresses s'inquiétaient toujours de voir leurs fils s'aventurer trop loin du château. Connor supposait que c'était le rôle des mères, tandis que les maris, ou les femmes de ces dernières, les gentils, avaient tendance à être d'accord avec tout ce que disait leur seigneuresse. Une brindille craqua, et il se retourna vivement. « Qui est là ? » s'inquiéta-t-il, sa voix mince résonnant faiblement à ses oreilles. La mousse et le lichen absorbèrent tout ce que son ton aurait pu avoir de tranchant. En guise de réponse, une légère brise joua avec ses cheveux et il sentit l'odeur de pourriture humide du sol de la forêt. Le cœur battant, il déglutit et poursuivit sa route. Si Amelia l'audacieuse avait fait demi-tour chaque fois qu'une branche craquait, elle n'aurait pas quitté son terrain, pensa-t-il férocement. La pensée d'Amelia fixant le vide avec défi l'encouragea. Il n'était peut-être pas une femme courageuse, mais il n'était pas non plus un petit garçon. Il était presque un homme, un prince de surcroît. Les épaules en arrière et la tête haute, il allongea sa foulée et accéléra le pas. « Ce ne sont que quelques arbres et un peu d'eau, » se dit-il. Il pensa brièvement à maîtresse Marmaduke et essaya de nier la vague de soulagement qui l'envahissait. Le fait de savoir que quelqu'un viendrait le chercher en cas de besoin était une pensée rassurante. Il suivit la rivière pendant la majeure partie de la matinée, jusqu'à ce que la densité de la forêt s'éclaircisse. Soudain, le soleil l'illumina et la terre disparut à quelques mètres devant lui. Il y était enfin. Il avait réussi. Le bout du monde. La falaise. La séparation entre les renombres supérieurs et inférieurs. Il avait vu des portraits et des tapisseries décorées d'images de la falaise. Il en avait contourné le bord avec sa mère de nombreuses fois à cheval. Il avait même escaladé la moitié de la montagne avec son ami Hector pour mieux l'admirer. Mais jamais il n'en avait été si près. La forêt dense qui bordait la quasi-totalité du bord était suffisamment dissuasive pour la plupart des citoyens d'Autéry. Si la forêt n'était pas suffisante, la possibilité de faire une chute vertigineuse dissuadait les autres. Il n'avait jamais été explicitement interdit à Connor de s'aventurer aussi près. On supposait simplement qu'il ne prendrait jamais ce risque. Les paumes de ses mains picotant, Connor s'arrêta à quelques mètres du bord. La rivière dévalait la falaise en un flot sauvage et sans fin. Le bruit de la cascade était avalé des centaines de mètres plus bas. S'armant de courage, Connor posa son sac au pied de l'arbre le plus proche. Il se mit à quatre pattes et rampa vers l'abîme aussi près que son courage lui permettait. Il s'approcha du grand chêne dont les racines semblaient tenir cette partie de la falaise et jeta un coup d'œil par-dessus le rebord, se tenant fermement à l'écorce rugueuse de l'arbre. Certaines racines pendaient hors de la terre comme des veines à l'extérieur d'un corps. « Wow !»
les yeux de Connor descendirent plus bas, encore plus bas, le long de la paroi abrupte de la falaise. Trop vaste pour qu'il puisse l'observer dans son entièreté. Elle semblait se courber à la périphérie de sa vision. Il lutta contre une vague de vertige, ferma les yeux un instant, puis les ouvrit pour inspecter le monde en contrebas. La cascade se jeta dans un lac, puis dans une rivière qui serpentait jusqu'à une petite ville. Son regard dériva vers la ligne de montagne à l'horizon et aperçut des champs de villages, des maisons, ainsi que des petites parcelles de forêt tracées, assemblées et étirées comme une courte pointe. C'était magnifique. Waouh! Il oubliait souvent à quel point le monde était grand. En vivant dans le palais, il était facile d'oublier que l'immensité du Haut-Rhénom était minuscule comparée aux champs et aux collines ondulantes du Bas-Rhénom. Il suivit des yeux les différentes routes qui contournaient et traversaient les rivières et les marais et s'émerveilla de l'imposante frontière de montagne qui coupait le Bas-Rhénom de tout ce qui se trouvait au-delà. Il n'arrivait pas à croire que sa mère dirigeait un si grand territoire. Il y avait encore de nombreuses parties de celle-ci qu'il n'avait pas encore visitées. Et il n'était allé dans le Bas-Rhénom qu'une seule fois, lorsqu'il était bébé. Tout ce qu'il en savait, il l'avait appris en assistant aux réunions de sa mère avec le Conseil des Quatre. Quatre femmes sévères qui guidaient sa mère, comme sa mère avant elle. Le Conseil n'avait jamais eu de propos sympathiques sur les inférieurs. Des mots comme « simple », sale et cupide étaient souvent utilisés. Il resta longtemps figé sur le bord, se rappelant régulièrement de respirer, fermant fréquemment les yeux et se concentrant sur la sensation de l'herbe et de la terre sous ses paumes lorsque la hauteur devenait trop importante. Connor était venu ici pour une bonne raison. Repoussant une autre vague de vertige, il se retira à quelques mètres du bord et regagna son sac à dos. Une fois arrivé, il sentit la tension dans sa poitrine se relâcher. Il sortit le petit bateau et le déballa du mouchoir avec précaution. Il se pencha pour arracher quelques brins d'herbe et les laissa tomber dans la brise. Le vent était parfait pour accompagner le voyage inaugural de ce navire. Il le vérifia à nouveau, testant les voiles, refermant les coutilles et inspectant la coque à la recherche du moindre défaut. Une fois qu'il jugea que sa création était en état de naviguer, il se dirigea vers le bord de l'eau. « Je devrais dire quelque chose, » pensa-t-il. Il se sentit idiot, mais réalisa qu'il n'avait personne pour le juger et se racla la gorge, se tenant solennellement sur le bord de la rivière. « Que vos drapeaux flottent et que vos gréements tiennent bon. Que le vent soit toujours dans votre dos et que les étoiles guident votre voyage. » Vous êtes la première expédition à la recherche de terre d'en bas et bonne chance. Il marqua une pause puis continua. Que la déesse soit avec vous toutes, braves femmes et hommes. Il hocha la tête pour saluer l'équipage imaginaire, puis plaça délicatement le petit bâton en bois dans l'eau avant de le pousser vers le milieu de la rivière. Pendant un instant, Connor crut que le navire avait coulé. Il le perdit de vue alors que le courant se précipitait pour atteindre le bord en premier, impatient de sauter dans le vide. Puis, il aperçut un éclair rouge dans un remous et soudain, la falaise se précipita à la rencontre du petit bateau. Celui-ci resta un instant suspendu au-dessus du gouffre une interminable seconde, puis bascula hors de sa vue. Connor afficha un large sourire. Avec précaution, il rampa de nouveau jusqu'au bord de la falaise, essayant d'apercevoir le bateau dans sa descente. Il observa la chute d'eau longtemps après avoir perdu toute chance de distinguer, puis il roula sur le dos, le cœur léger, et l'esprit suivant la navire, il se lança dans sa grande aventure. Il était peut-être enfermé dans son palais, mais quelque part, loin en dessous, son bateau s'aventurait vers l'inconnu. Vous avez écouté le chapitre 1 du Tournoi des Reines par Jordan H. Bartlett, présenté par les éditions Luxinox.